Le journal, Régis Meria, bonsoir.
Bonsoir, vous les avez sans doute entendus, les sirènes ont retenti cet après-midi dans toute la Suisse. Aujourd'hui c'était un exercice, donc pas de panique, mais vous l'entendrez, elles peuvent se déclencher à n'importe quel moment en cas de réel danger. Cela fait 100 jours qu'Aurélie Landry occupe le poste de secrétaire générale du Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Bienne. L'occasion pour la secrétaire générale du CAF de faire son premier bilan dans ce journal. C'est la première grosse échéance aux mondiaux de ski alpin à Saalbach. Le Super G féminin est au programme demain avec un départ prévu à 11h30. La bataille s'annonce rude entre plusieurs candidates qui aspirent au titre, voire même au podium. Dans le tir ce matin à l'entraînement, les Suissesses ont notamment un coup à jouer. Météo ce soir et cette nuit, le temps restera clair et sec. Demain jeudi, en revanche, de nombreux nuages bas sont annoncés jusque vers 1000 à 1500 mètres d'altitude. Il fera frais, maximum 3 à 6 degrés avec une faible bise. Les sirènes ont retenti aujourd'hui dans toute la Suisse. Comme chaque premier mercredi de février, les tests des alarmes générales sont effectués pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Aujourd'hui, c'était un exercice, pas de quoi s'inquiéter, mais elles peuvent se déclencher à n'importe quel moment en cas de danger. Cyril Scheidegger est le commandant de la protection civile du Jura bernois. Il nous explique.
La Confédération a le lead pour les alarmes, tout ce qui concerne les menaces et dangers atomiques, biologiques et chimiques, et tout ce qui est rupture aussi de barrages ou débordement liés aux barrages. Les cantons et les communes peuvent être à même de lancer l'alarme pour des situations de crue, d'avalanche, de glissement de terrain, d'incendie, de danger chimique, mais de type C seulement. Aussi, tout ce qui est la contamination de l'eau potable.
Le premier réflexe de se cacher dans les abris atomiques, ce n'est pas forcément un bon réflexe.
Une alarme générale, elle peut retentir pour différentes situations, comme je l'ai dit avant. Ça peut être effectivement un besoin de se rendre dans les abris si c'est de type chimique, biologique, atomique. Mais si on parle d'un incendie ou d'inondation, on ne va pas devoir aller en profondeur. Donc non, ce n'est pas forcément le bon réflexe. Le bon réflexe, c'est d'écouter la radio et de suivre les instructions.
Cyril Scheidegger au micro de Lucie Ostorero. En cas de véritable alarme, il faut donc écouter la radio, suivre les instructions des autorités et informer vos voisins. C'est ce que rappelle le commandant de la protection civile du Jura bernois. Début octobre, une nouvelle secrétaire générale entrait en fonction au Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Bienne. Pour rappel, cet organe politique du canton de Berne représente les intérêts de la communauté francophone des 19 communes de l'arrondissement administratif de Bienne. Aurélie Landry a ainsi succédé à Stéphanie Bella. Une centaine de jours après sa prise de fonction, la secrétaire générale du CAF fait son premier bilan. Aurélie Landry s'est plongée dans plusieurs gros dossiers, notamment dans la formation.
Je vais participer maintenant à un groupe de travail pour le développement des places d'apprentissage en français dans la région. Il y a encore et toujours une inégalité au niveau de l'offre des places d'apprentissage. Et puis là, ce sera un groupe de travail qui va être créé en collaboration avec le canton, les écoles professionnelles de la région qui sont bilingues et puis aussi les partenaires du marché du travail dans le but de trouver des solutions concrètes pour offrir davantage de places d'apprentissage en français.
Il y a des dossiers plus urgents ou plus conséquents?
Il y a bien sûr, en prévision du transfert de Moutier dans le canton du Jura, la question de beaucoup d'institutions cantonales qui devront se déplacer. Il y a notamment le CEF Artisanat, cette école qui va déménager à Bienne l'année prochaine. Et puis là, il y a des implications bien sûr très concrètes pour les jeunes francophones qui souhaitent suivre ces formations. Et là, on suit de près pour veiller à ce que tout se passe bien, tant au niveau des bâtiments que du déménagement de l'école et puis du développement des filières par rapport à celles qui existent déjà ici, par exemple.
L'Office fédéral de la statistique a récemment reconnu officiellement Bienne et Évillard-Macolin comme communes bilingues. La secrétaire générale du CAF salue cette reconnaissance, Aurélie Landry.
C'est finalement une adaptation des cartes, des régions linguistiques qui correspond maintenant mieux à la réalité. Après, le bilinguisme était déjà clairement reconnu à Bienne. Au sein du canton aussi, il est ancré dans la constitution cantonale. Donc maintenant, ça sera peut-être un levier finalement vis-à-vis de certains partenaires qui sont encore un peu récalcitrants à admettre que la commune ou la région sont vraiment bilingues et puis qu'il faut adapter peut-être les prestations à cette réalité. Et puis l'autre aspect positif, c'est que finalement, c'est toujours bien de parler du bilinguisme. C'est vraiment aussi un des défis du CAF de mettre en avant les richesses, tout ce qu'amène le bilinguisme, mais aussi les défis qui sont engendrés par le fait de devoir faire les choses dans les deux langues, par le fait de devoir se comprendre. Par exemple, au niveau des contrats de prestations avec le canton, on a des institutions qui doivent fournir des prestations que dans une langue et d'autres qui doivent les fournir dans les deux langues. Et ça engendre fatalement des coûts supplémentaires. Et puis là, il y a une question très concrète de comment on couvre ces coûts. Qu'est-ce qu'il y a comme système de financement qui est prévu? Souvent, il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas reconnu. Donc, il s'agit de mettre en lumière aussi qu'est-ce que ça engendre et puis comment on le traite de manière publique.
C'était Aurélie Landry, secrétaire générale du Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Bienne. Elle revenait avec Estelle Herman sur sa nouvelle fonction au CAF depuis le mois d'octobre. Un automobiliste pincé pour délit de chauffard, l'homme de 50 ans circulait à 156 km/h au lieu de 80 hier sur le tronçon de Buren à Wengi dans le Seeland. La police cantonale bernoise indique cet après-midi que son permis de conduire lui a été retiré et son véhicule saisi. Les autorités ajoutent aussi l'avoir emmené au poste pour d'autres clarifications. Il devra répondre de ses actes devant la justice. Dans un mois, la Bible de Moutier-Grandval sera de retour dans le Jura. L'ouvrage d'exception qui a quitté la région pour rejoindre la British Library à Londres au 19e siècle sera au cœur d'une exposition organisée au Musée jurassien d'art et d'histoire du 8 mars au 8 juin. De nombreux événements culturels et scientifiques seront aussi organisés dans la région pour faire connaître l'histoire périlleuse de l'ouvrage d'exception à travers les siècles et les frontières. L'un des temps forts sera un colloque international organisé par Mémoire d'ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, qui réunira chercheurs et scientifiques internationaux. Si la Bible de Moutier-Grandval est l'un des ouvrages les plus étudiés au monde, de nouvelles découvertes pourraient être faites grâce à la tenue de ce colloque à Tramelan, selon Sylviane Messerly, directrice de Mémoire d'ici.
Je pense qu'il y a encore des choses à découvrir autour de la Bible de Moutier-Grandval. La première voie qu'il faudrait explorer, c'est l'histoire du monastère de Moutier-Grandval, de l'abbaye de Moutier-Grandval. Pour les premiers siècles, on a aucune source, ce qui est normal. Mais pour les siècles post-médiévaux, là, je pense qu'il y a encore des documents qui doivent être relus, réétudiés, ou lus et étudiés pour certains. Et l'histoire de l'abbaye de Moutier-Grandval doit encore être écrite.
Et sa venue dans la région pourrait contribuer à cette émulation au niveau des chercheurs, des scientifiques?
Je pense, oui. Le parcours de cette Bible, finalement, il est fait d'énigmes et de légendes. Il est fait de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et le fait de faire venir des chercheurs ici dans la région, de les faire réfléchir ensemble, fait que cette émulation va amener certainement de nouvelles approches, de nouvelles compréhensions de l'objet lui-même, qui est vraiment un objet de la culture occidentale.
Le retour de la Bible de Moutier-Grandval est le fruit d'un travail de près de 10 ans et coïncide aujourd'hui avec l'arrivée de Moutier dans le Jura quelques mois après. L'événement culturel comporte ainsi une dimension politique, selon le ministre jurassien de la Culture, Martial Courtais.
Oui, ça l'est, mais c'est surtout dû au hasard, ou peut-être n'y a-t-il pas de hasard. J'ai souvenir vraiment, il y a près de 10 ans maintenant, Christine Salvadé qui arrive dans mon bureau en se réjouissant de ce potentiel, de ce retour de cette Bible de Moutier-Grandval. Ça arrive à ce moment-là, et ça devient politique du coup pour cela, parce que ça tombe au moment du retour de Moutier. Donc c'est assez extraordinaire. Il faut le rappeler aussi, la coordination a été vraiment magnifique puisque ça s'est très bien passé, bien évidemment avec le Musée jurassien d'art et d'histoire, mais aussi avec l'archéologie bernoise qui a fait aussi toutes les fouilles sur Moutier. Donc cette collaboration, au-delà de nos divergences politiques, finalement nous rassemble dans ce moment-là. Là non plus, je crois qu'il n'y a pas de hasard.
Un dossier réalisé par Marceline Michon. Les chevaux patienteront à Muriaux. La 21e journée équestre sur neige prévue dimanche prochain est repoussée au 23 février. 85 participants sont attendus avec leur cheval Franche-Montagne. La plupart prendront part à la compétition de ski attelé ou de vélo attelé en fonction des conditions. L'absence de l'or blanc n'est pas la cause principale de ce report, mais la météo n'est pas favorable pour assurer la sécurité des concurrents et de leurs montures. Au micro de Régis Cerf, les précisions du président du comité d'organisation, Claudie Boya.
Mais la météo nous prévoit quand même couvert, voire un peu de la pluie ou de la neige. C'est très aléatoire. Donc la décision était difficile à prendre, mais le comité, à l'unanimité, a décidé de renvoyer la journée équestre. Une bise, du froid, puis du terrain quand même glissant pour les chevaux, c'est quand même pas l'idéal. Ça sera donc le 23, mais si vraiment la météo elle est pas avec nous, donc on annule. On annule tout simplement la journée équestre pour cette année, quoi.
Ce serait d'autant plus dommage qu'il y a un engouement qui est vraiment là cette année.
Oui, il y a vraiment de l'engouement. On a 85 inscription pour la manifestation de la journée et on est vraiment content, on a 15 inscriptions de plus que l'année passée, donc on voit que l'année passée ça avait très bien marché, le terrain était bon, donc on a toujours plus d'engouement les années suivantes, quoi.
Des riverains de la centrale nucléaire de Leibstadt saisissent la justice. Ils exigent une étude d'impact pour évaluer les risques d'une exploitation prolongée de la centrale. 15 habitants de l'Argovie et de l'Allemagne voisine ont déposé une demande auprès de la Confédération. Mais le département fédéral de l'énergie et de l'environnement refuse d'entrer en matière. Il estime que rien n'oblige les exploitants à faire une étude d'impact en cas d'utilisation prolongée. Pourtant, les traités internationaux ratifiés par la Suisse sont clairs, estime Florian Kasser, chargé des questions nucléaires chez Greenpeace.
Les deux conventions internationales, donc Aarhus et Espoo, sont assez claires. Quand une centrale nucléaire doit être prolongée au-delà de sa durée d'exploitation initialement prévue, dans le cas de Leibstadt, c'est 40 ans, une étude d'impact doit être faite. En fait, les riverains là, qui portent plainte aujourd'hui, ce n'est pas à eux de faire le boulot. Ce serait en fait aux autorités de demander à Leibstadt maintenant d'être transparent et d'évaluer l'impact sur l'environnement de cette exploitation.
Dans d'autres pays, lors de prolongation de centrales, il y a eu des études d'impact ?
Oui, tout à fait. Alors cette question a été discutée dans plusieurs pays, justement parce que le parc nucléaire international y vieillit et dans plusieurs pays il y a cette question qui était là dans le cas d'une prolongation, est-ce qu'on doit faire une étude d'impact ? Et disons les commissions qui traitent ces questions au niveau international en rapport avec les conventions d'Aarhus et d'Expo ont été très claires, dans le cas d'une prolongation de centrale, il faut effectuer une étude d'impact. Et puis cette étude d'impact, c'est simplement pour expliquer ce que c'est quel est l'impact sur l'eau par exemple, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un rejet de radioactivité pour les sols, pour les gens.
Des propos recueillis par Marie Vieux-Mier, les riverains ont fait recours la semaine dernière auprès du tribunal administratif fédéral pour exiger cette étude d'impact. COP rappelle à titre préventif les flocons d'épeautre Bio Natura Plan. L'enseigne de grande distribution l'annonce dans un communiqué publié aujourd'hui. Le produit peut contenir des morceaux de plastique, il présente donc un risque pour la santé et il est recommandé de ne pas le consommer. A noter encore que les produits concernés ont d'ores et déjà été bloqués à la vente. Si vous en avez encore en votre possession, vous pouvez les rapporter dans n'importe quel point de vente.
18h12 sur RJB.
RJB Sport.
Séverine Boya va boucler la boucle dans un paysage féerique. L'athlète aujourd'hui établie au Breuleu participe dès lundi au championnat du monde de chiens de traîneau qui se tiennent dans une région reculée de Norvège. La meucheuse de 44 ans a déjà entrepris un voyage en voiture de plus de 30 heures accompagnée notamment de ses 6 chiens. Cette compétition sera la dernière de la brelotière sur neige. Séverine Boya espère en profiter un maximum.
Je pense qu'on peut pas rêver mieux en tant que mâcheur de finir sa carrière sur neige en Norvège. Et puis, j'espère vraiment en profiter au maximum et puis revenir avec les meilleurs résultats possibles.
En termes de résultats, il y a une ambition particulière pour cette dernière. On se dit qu'on veut quand même donner un petit coup de boost ou bien pas forcément?
C'est sûr que j'y vais quand même pour vraiment la compétition, donner au maximum de ce que je peux donner. Après, je suis aussi consciente que tout le monde est déjà dans la neige depuis des semaines. Je suis la seule qui part vraiment la dernière minute. On travaille, on n'a pas de solution, on peut pas faire autrement. Et puis après, c'est sûr que j'aimerais offrir le meilleur résultat possible à mes chiens avant de terminer leur carrière aussi à eux, quoi, du coup.
En termes d'entraînement, il a fallu s'adapter, on imagine, ces derniers temps. On a connu la neige il y a plusieurs semaines maintenant. Depuis, c'est un peu plus calme. Comment est-ce que vous vous êtes préparé, du coup ?
On a pris les autres variantes, donc c'est plutôt le kart, donc version avec les roues, dans la boue, ou le VTT. Donc du coup, semaine passée, c'était aussi entraînement à signer léger pour encore un peu s'amuser pour le fun. Et puis les chiens sont prêts. Et puis la même chose, je pense aussi.
Séverine Boya répondait à Michel Léoni. L'athlète participe dès lundi au championnat du monde de chiens de traîneau en Norvège. Elle vise la première moitié du classement pour sa dernière grande compétition sur neige. C'est la première grosse échéance aux mondiaux de ski alpin à Saalbach. Le Super G féminin est au programme demain avec un départ prévu à 11h30. La bataille s'annonce rude entre plusieurs candidates qui aspirent au titre, voire même au podium. Les Italiennes Sofia Goggia et Federica Brignone font partie des favorites, tout comme Lara Gut-Berami, qui disputera d'ailleurs son dernier championnat du monde. La Tessinoise a pris ce matin la 4e place du 2e entraînement de la descente de ces mondiaux. La skieuse de Comano a toutefois concédé plus d'une seconde à l'Autrichienne Myriam Puchner. Quant à Corinne Souter, elle est revenue avec ambition de sa blessure au genou, elle qui a signé 2 podiums dernièrement en Coupe du Monde. 5e ce matin à l'entraînement, la Schwitzoise devient une sérieuse cliente au podium en Autriche.
Ich versuche die Weltmeisterschaft oder allgemein die grossen Lassen einfach so zu fahren, als wäre es ein normales Rennen. Und ich glaube, genau das ist so ein bisschen der Punkt.
J'essaie de skier au championnat du monde et sur les épreuves renommées comme si c'était une course normale. Et je crois que c'est la clé. C'est en ne changeant rien ou pas grand-chose qu'on parvient à être les meilleurs. Mais c'est vrai que l'environnement joue un rôle et il se passe tellement de choses ici que je me réjouis de voir comment je vais y réagir. Après, il me manque clairement des kilomètres de course. Je suis quelqu'un qui aime habituellement s'entraîner, mais je pense que je pourrais compenser avec mon expérience. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de donner mon maximum.
Des propos traduits par Émilie Mumenthaler. Le Super G féminin des mondiaux de Salbar a lieu demain à 11h30. A noter également un tir groupé prometteur chez les hommes. Stéphane Roguentin, Marco Dormat et Alexis Monet ont terminé 4e, 5e et 7e du premier entraînement en vue de la descente des mondiaux de ski alpin de Salbar. C'est l'américain Ryan Cochrane-Sigley qui s'est montré le plus rapide aujourd'hui. C'est un passage incontournable de Paris-Roubaix qui va se transformer. L'approche de la redoutable trouée d'Arenberg sera modifiée pour cette 122e édition de la Reine des classiques cyclistes. Les organisateurs de l'épreuve annoncent aujourd'hui que 4 virages précéderaient dorénavant le passage pour que les coureurs arrivent moins vite. Jusque-là, le peloton déboulait sur les pavés à plus de 60 km/h, donnant lieu chaque année à de nombreuses chutes. Jorge Martin se blesse en Malaisie. Le champion du monde en titre de MotoGP a été transporté ce matin à l'hôpital après une lourde chute lors d'un test de pré-saison sur le circuit de Sepang. Les examens réalisés sur l'Espagnol ont révélé plusieurs fractures au pied gauche et à la main droite. Sa participation au premier Grand Prix de la saison le 2 mars en Thaïlande est incertaine. Voilà qui marque la fin de ces informations. Excellente soirée à l'écoute d'RJB.
RJB Sport.